Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Pipo et chocolat.
Ah, c'est nous,
oui,
Charlie.
Ouais. Oui, c'est vous. Ça, ouais. Vous voulez qu'on touche le fond
ou
quoi? Ben,
je savais pas qu'on pouvait tomber plus bas. Moi, personnellement,
vu la tête de Charline, on dirait que oui.
Ah ouais, bien sûr que oui, mais vous y mettez bien du vôtre en matière de qualité de vanne.
Ah,
Guillaume, si, oui, l'invité, vient pour parler de son spectacle.
Oui. Vous pourrez donc découvrir Véronique Gallo et son One Mother Show qui, pour l'instant, est au théâtre des Mathurins.
Rappelons que Véronique Courgeois fait un One Mother 3. c'est un peu le pendant. Excusez-moi.
Oui, non, alors non, on ne t'excuse pas.
Ça,
non.
C'est vrai, c'est choquant. Moi, j'ai trouvé ça très choquant. Quand même.
Ouais, alors toi, tu fais bien de la ramener, toi. Les jeux de mots de qualité sur la Syrie.
Après l'attaque chimique, Donald Trump menace le régime de Bachar al-Assad.
Mais oui, mais de toute façon, c'est bien connu, les mauvais régimes, ça donne des gaz.
International.
Il y a de la poésie.
International.
Et en même temps, il y a une analyse géopolitique. C'est vrai,
faudrait. Passons vite à la suite.
Brillant.
Ça, c'est choquant, moi, je trouve. Ça m'a
écoutez,
choqué.
Le problème n'est pas là.
Ah bon?
Le problème, c'est qu'avec vos conneries, vous mettez l'invité à l'aise.
Et alors
oui, elle nous raconte des choses qu'on n'a pas envie de savoir.
Parce que moi, j'ai été traumatisée par la cantine, puisqu'on m'a forcé à manger des pruneaux en troisième maternelle et j'ai tout vomi sur Laurence Cravatte. C'est un souvenir terrible. D'ailleurs, depuis, je n'ai plus jamais mangé de pruneaux et c'est un grand drame dans ma vie.
Et on se serait passé peut-être de cette anecdote.
Oui, surtout de l'image que donne l'anecdote.
Voilà, on se serait passé de pas mal de choses hier. Hein, j'essaie tous les jours de faire une émission élégante, un peu raffinée.
Et arrête-moi si je me trompe.
Oui,
mais dans le sketch.
Ah oui, Alex a raison. Alors ça, oui.
Hein, quoi ça?
Oui,
bah, c'est le sketch. C'est toi qui relevais pas le niveau.
Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez là.
Maman, j'ai fait pipi. C'est tout chaud, maman.
Les merguez.
Ah non, le pipi. Maman, ça coule.
Le sang.
Non, le pipi. Maman, il y en a partout.
Mais quoi, des bourgeois?
Non, le pipi.
On sent bien l'élégance.
Oui, on sent bien le raffinement aussi.
Et c'est le Titanic de la poésie, cette émission.
Ouais, ouais. Et on n'a pas de canot de sauvetage en plus.
Bonjour la France Inter, vous écoutez une jeune pousse du Nouveau Monde qui regarde parfois vers l'ancien, puisque nous parlerons de François Hollande. Il dresse lui-même son bilan dans un livre, il est de retour partout dans les journaux, à la télé, demain matin à la radio, alors qu'on a juste envie de lui dire...
Écoutez-moi bien, vous allez me foutre la paix. Et si on a besoin de vous, on vous sonnera.
Avocats, greffiers, magistrats sont dans la rue, justice partout... police partout aussi, parce qu'il faut encadrer les manifestants. En cette journée, justice morte, la réforme du gouvernement entend réduire l'accès du citoyen à la justice. Écoutez la garde des Sceaux.
C'est pas fatigant de juger comme ça en permanence? C'est quoi? C'est de l'envie? De l'aigreur?
La télé-réalité façonne le comportement, les valeurs et même l'intimité des adolescents. Bon ben voilà, dans 20 ans, Nabila est présidente de la République et puis c'est plié.
Moi, je suis une mouche de télé. Je regarde que les merdes.
Lui, c'est tout le contraire de la télé-réalité. C'est le maître de la radio-fiction. C'est Alex Vizorek.
Oh là là, parfois vous surpassez, ça m'émeut à chaque fois. Autour de la table, une belle équipe.
Une belle équipe.
Je vous en ai du beau gosse, Valouna Kier. Vous n'allez pas être déçus. À 17h20, celui qui était trop ému pour venir demain, puisque nous recevons son idole, Salvatore Adamo, alors il est venu aujourd'hui. C'est vous, Chewbacca, bonjour.
Oui, mais je viendrai vous voir demain quand même.
Mais j'espère.
Parce que vous avez un scoop sur Salvatore Adamo.
C'est vrai, on ne peut pas tout dire. De quoi on va parler aujourd'hui?
D'Orchestra à Cocane.
Un pigé, voilà. Mais ça risque d'être intéressant. À 17h30, celui qui s'évertue à faire comprendre aux Français qui ils sont.
C'est
autant
vrai.
Maître Ray Charles devant un miroir, c'est vous, Guillaume Meurice, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Moi je suis allé fêter la Révolution sous les ors de la République à l'Assemblée Nationale, où était présentée une expo sur mai 68, et j'ai rencontré des gens passionnants.
Je viens de publier les mémoires de Bernard Pons.
Oh là là, depuis le temps qu'on les attendait, celle-là.
Ça donne envie.
Oh là là.
Eh ben, vous pensez pas si bien dire. À 17h40, celui dont le livre d'entretien avec Davelhom est en cours d'écriture et s'intitulera « Des ragnoutes ne devraient jamais tomber ce jour-là ». C'est vous, c'est Pablo Mira, bonjour.
Salut Alex, salut Charline, salut Chewbacca, Guillaume. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur le blocage des facs. Je vous vous expliquerai pourquoi il est urgent de renouer le dialogue entre les étudiants et les gaz lacrymogènes. À tout à l'heure.
Et je me tourne vers celui qu'on a invité à s'installer dans l'open space. Vous sortez d'une grande école de journalisme car vous envisagez le reportage de guerre, mais vous constatez que ça se termine souvent à pisser de la copie à la rédaction. Alors vous montez à un groupe de rock, Black Maria, et vous êtes l'une des principales chevilles ouvrières de Ciel Montmardi, l'émission de Christophe de Chavannes. Vous sortez 2 albums solo, vous travaillez avec Carl Zéro, puis vous partez à Jeudi Investigation sur Canal, Nouveau Regard sur France 4, et aujourd'hui sur France 2, vous réalisez Dans les yeux de...
D'Olivier.
Oui, c'est Olivier Delacroix avec nous.
Oui, c'est vrai, c'est
je pense que c'est Bernard Marie de la dernière.
Alex Vizorek, par Jupiter.
Bienvenue Olivier Delacroix, journaliste, journaliste et rocker. Vous avez sorti un album au mois de mars d'ailleurs.
Oui, oui, oui.
Qui s'appelle comment ?
Amor.
Très bien, Amor de Olivier Delacroix.
Si de la joie de vivre.
Et s'il ne passe pas sur cette antenne, c'est à cause de cet homme.
Ah, mais je savais même pas, tiens. Ben, voilà. Il est gentil avec moi depuis tout à l'heure, donc je comprends maintenant.
Démerdez-vous.
En revanche, il y a Booba. Vous faites ce que vous voulez de cette information.
Ah bon ?
Olivier Delacroix, vous venez nous voir pour un nouvel épisode de votre série documentaire qui s'appelle Dans les yeux d'Olivier. Celui-là s'intitule Rescapé, le retour à la vie, et sera diffusé sur France 2 le 25 avril à 22h30. Vous vous intéressez ici à des gens qui ont vécu une parenthèse hors du commun dans leur vie. Hors du commun, véritablement, c'est-à-dire une très longue amnésie, une dépression très profonde, une prise d'otage de 8 jours ou une paralysie totale qui se termine bien. Prenons 2 exemples brièvement. Il y a Jacques Michel qui a oublié qu'il avait une femme et 2 enfants, qui a oublié qui il était suite à une agression. Il y a Médéric qui était employé sur le Ponant, vous savez, le voilier de croisière qui a été pris d'assaut il y a 8 ans par 11 pirates somaliens armés de Kalachnikov. Donc on a affaire à des histoires, des destins, des trajectoires véritablement hors du commun. Alors on se demande comment vous parvenez à les trouver, ces gens, et à les convaincre de témoigner, parce que c'est 4 aiguilles dans la meule de foin française.
Ouais, ouais, ouais. En fait, on a la chance d'exister maintenant depuis 8 ans. On fait pas mal d'appels à témoins grâce à notre Facebook. Et pour les 2 personnes que vous avez citées, Jacques Michel et Médéric, en fait, ils sont venus vers nous. Mais bon, après, voilà, on fait un travail d'enquête comme n'importe quel journaliste. Et le plus dur ensuite est de les faire se raconter pendant 3 jours.
Oui.
Et pour en donner au bout 22 minutes.
3 jours, vous parvenez à leur faire raconter quelque chose, la chose la plus douloureuse de leur vie, avec beaucoup de pudeur. Comment vous placez le curseur ? Parce que parfois ils sont très 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 émus, ils parlent de choses intimes, douloureuses, troubles, quand vous parlez à Jacques Michel qui s'est retrouvé un jour dans une cabine téléphonique perdue, il ne savait plus comment il s'appelait, il se retrouve à l'hôpital psychiatrique, etc. Comment vous faites pour parvenir à leur tirer les verres du nez, si je puis dire ?
Alors,
avec beaucoup de pudeur.
Ma réponse va peut-être vous paraître un peu simple, mais je leur parle normalement. Parce que je crois que j'exerce...
Qu'il y a une caméra, c'est difficile de parler normalement.
Oui, mais finalement, là où en fait pas mal de mes confrères ont essayé de venir masticoter justement sur le fait que j'étais à l'écran, qu'on me voyait...
Sur l'incarnation.
Voilà, sur cette incarnation qu'on a mis un peu à toutes les sauces. Cette incarnation aujourd'hui, elle est justifiée depuis le début. Parce que finalement, là, vous voyez, il y a des caméras autour de nous, mais on se parle les yeux dans les yeux. Mmh. Et très vite, mes interlocuteurs oublient la caméra. Et quand je vous dis, je leur parle normalement, c'est que dès le début, ils savent qu'on va avoir du temps aussi pour s'exposer leur histoire, pour exposer leur histoire. Et donc, voilà, je leur parle normalement, on a du temps. Et puis après, je me laisse guider par leur récit et je sens quand il y a une porte à ouvrir ou à pousser qu'ils n'ont pas obligatoirement su pousser tout seul, ou alors que qu'il y a bien longtemps qu'ils ont poussé et puis depuis il y a eu du temps qui a passé, donc ils sont papa ou ils ont mûri et ça donne lieu à des dans les yeux de.
Et comme quoi, grâce au tact, on obtient beaucoup plus de choses. Mais Pablo Mira,
oui, vous parliez de temps. Est-ce que des fois, ça vous arrive d'avoir des retours de personnes qui ont témoigné donc pendant 3 jours et qui donc au final, il reste 22 minutes et qui sont frustrés d'avoir passé 3 jours et de voir qu'il n'y a eu que 22 minutes et qui auraient aimé que tel morceau soit là parce que pour eux, c'était significatif ou...
Alors, c'est très, très rare. Ouais. Sur 8 ans, j'ai dû avoir 3 personnes qui ont manifesté un mécontentement. mécontentement assez voilà assez quand même restreint, ouais. Mais autrement non, le reste on a la chance de voilà de d'arriver à sortir les choses essentielles d'une histoire et surtout je pense que aussi on en sort beaucoup de lumière en fait parce qu'il y a beaucoup de solutions. Moi je pense toujours à un couple avec il y a deux enfants qui sont là, mais j'imagine toujours un couple avec ses deux enfants assis sur le canapé en train de regarder la télé, qu'est-ce qu'ils voudraient savoir, et je me fais leur porte-voix. Et donc on arrive en 22 minutes, on dit beaucoup de choses quand même, hein. Quand vous voyez à la télévision c'est généralement le témoignage c'est 5 minutes, 7 minutes à tout casser.
Olivier Delacroix, donc ça s'intitule Rescapé, le retour à la vie, c'est dans la série documentaire Dans les yeux d'Olivier, et ce sera diffusé sur France 2, la deuxième chaîne de la honte de la République, à laquelle vous participez, bien sûr, et ce sera le 25 avril à 22h30. Olivier Delacroix est avec nous, on va avoir l'occasion de revenir à votre cœur de métier avec un sujet sur la réforme de la justice notamment. Restez avec nous par Jupiter.
What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time.
Don't wanna fight.
No more. Hey, Alabama Shake.
Ah, bien sûr, c'est vous qui avez choisi, Djoubaka.
Bah ouais, on passe un bon moment avec Alabama Shake.
Sur France Inter, par Jupiter, en compagnie du journaliste et documentariste Olivier Delacroix. Son prochain documentaire passe le mercredi 25 avril à France 2, c'est dans les yeux d'Olivier, bien sûr, sur les rescapés, le retour à la vie, ces parenthèses de gens qui ont vécu des choses totalement hors du commun, comme Médéric, qui était sur le Ponant et qui a vu débarquer 11 pirates somaliens armés de Kalachnikov et qui s'en est sorti 8 jours après, mais qui s'en est psychologiquement a du mal à s'en sortir. Ouais. Mais tout ça, vous avez raison, elle reste très positif.
Parce qu'on parle d'une pause dramatique, mais on parle aussi de gens qui sont revenus.
Et de l'après. Ouais. C'est le titre Rescapé, donc. Pour entourer Olivier Delacroix, Alex.
On a 3 rescapés de la radiophonie. On a Djoubaka, on a Guillaume Meurice et on a Pablo Mira.
Rescapé des brèves ou pas?
Bien sûr.
Écoutez, on va le savoir tout de suite, attention.
Be proud of you because you can be. Do what we want to do.
The Journal of presque 17h17.
Tout à l'heure, you are French.
Et on commence par les titres.
François Hollande était hier soir l'invité d'Anne-Sophie Lapix et il a fait chuter l'audience du 20h de France 2.
Et oui, il aura au moins réussi à inverser la courbe de l'audimat.
Dans Paris Match, Jean-Vincent Placé a reconnu être alcoolique et a assuré qu'il voulait arrêter de boire.
Oui, j'espère qu'il aura des meilleurs résultats en cure de désintox qu'au gouvernement, sinon il va vite ressembler à Michel Houellebecq.
Et donc, tout le monde se demande s'il y aura des brèves.
J'ai essayé de faire une cure de désintox de brèves, mais ça prend pas.
fonctionne pas.
Je vais vous donner une adresse. Et on commence par l'interview de François Hollande hier aux 20h de France 2.
Et oui, avec cette phrase qui a marqué tout le monde.
Emmanuel Macron, vous auriez pu le battre, vous, à cette élection ?
J'aurais pu, mais je ne l'ai pas voulu.
Mais voilà, voilà, François Hollande a réussi une prouesse, être encore plus de mauvaise foi que Mélenchon. Et c'est 600 000 voix près, évidemment.
Et visiblement, c'est une spécialité de ce quinquennat Hollande.
Oui, hein, alors le « j'aurais pu, mais j'ai pas fait » devient chez Manuel Valls le « ah bon, j'ai pas fait ». Quand Yves Calvi lui parle de l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes.
Moi, j'ai eu le courage de le faire. Je n'ai pas pu le mener à bout, mais enfin, c'est une page qui est tournée.
Non, pardonnez-moi, donc j'insiste, vous souhaitez le faire, vous estimiez avoir le dispositif pour le faire.
On n'a pas pu le faire parce que c'était dans un moment...
Vous aviez peur de quoi ? C'est en fait ça la question qu'on a envie de vous poser.
Ah, moi j'avais peur de rien dans cette affaire.
Bah, peur de rien évidemment mon bonhomme, c'est pour ça qu'il l'a pas fait quand même. Politique française encore.
Édouard Philippe aurait laissé une ardoise d'1 million d'euros lorsqu'il dirigeait la mairie du Havre.
Mais oui, des vols Paris-Tokyo à 350 000 euros, des factures d'1 million d'euros. Édouard Philippe, il ferait bien de passer un peu plus de temps avec Cédric Villani parce qu'apparemment il a du mal avec les chiffres.
International, oui. Suite à la visite du prince héritier d'Arabie Saoudite, la France a signé pour 14 milliards d'euros de contrat.
Ah oui, quand même, 14 milliards d'euros. Peut-être pas s'embarrasser avec quelques femmes qui doivent amortir des pierres avec le lobe frontal.
On 14 pas milliards, sur... oui, voilà, c'est sûr. Bien. Ça. L'Arabie Saoudite qui accueillera bientôt sa première Fashion Week strictement réservée aux femmes.
Oui, et apparemment, la couleur la plus tendance serait le bleu pétrole pour cette
Et aux États-Unis, en plein scandale Cambridge Analytica, oui. Mark Zuckerberg promet un changement de philosophie chez Facebook.
Et oui, grosse coupe, il y aurait donc une philosophie chez Facebook.
Oui, c'est vrai. Alors revenons plutôt en France.
Oui, dans le Loiret, un Mirage 2000 perd une bombe d'exercice s'envole et fait 2 blessés au sol.
Ah, c'est très con ça.
Ben oui, si jamais la France se décide à aller bombarder la Syrie, je conseille à tous ceux qui se trouvent sur la route Le Loiret, la Ghouta orientale, de se mettre à l'abri, évidemment.
Mais est-ce qu'on sait comment ça s'est passé? Je veux dire, comment la bombe est tombée?
Ah bah ben oui, moi j'ai un son.
Oh merde! Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai glissé, chef.
Et voilà comment ça s'est passé. Voilà. Jeunesse française à présent.
Selon une enquête Opinionway, un tiers des 18-30 ans a déjà été exposé à du porno à l'âge de 12 ans.
Oui, alors le mauvais côté, évidemment, c'est que ça leur donne une sale vision de la sexualité, mais le bon, c'est que ça suscite énormément de vocations dans les métiers de la plomberie, dont on a bien besoin.
Jeunesse française encore. Les jeunes perçus comme noirs ou arabes sont 20 fois plus contrôlés.
Ah, ça fait plaisir, dis donc.
Bah, Alex, ça va pas, on pouvait pas dire ça, quoi. Ça fait pas le plaisir que les noirs et les arabes soient plus contrôlés que les autres.
Mais ça fait pas plaisir, ça c'est honteux, mais ça fait plaisir, parce que moi je suis blanc, du coup, je suis hyper tranquille, quoi.
D'accord, des brèves.
Alors des brèves. À Palavas-les-Flots, on a retrouvé des milliards, oui, sans doute, peut-être, énormément de méduses violettes échouées sur la plage.
Est-ce qu'on sait ce que c'est ?
Eh ben apparemment, il y a un concours de sosie de Roselyne Bachelot à Palavas-les-Flots.
Rattrapez ça avec une dernière, s'il vous plaît, rapidement.
Oui, selon des médecins, le piment le plus puissant du monde et homologué par le Guinness des records peut provoquer des terribles migraines. Alors, étant donné ce syndrome, ce piment devrait être rebaptisé en accord avec l'Institut Pablo Mira, le piment ragnout.
Double.
17h26 sur France Inter, en compagnie d'Olivier Delacroix. Et voici ce premier sujet avec vous, c'est François Hollande qui est de retour, avec un livre où il dresse son bilan. Entre autres, parce que le bilan ne tient pas en 400 pages. C'est la séquence de rien pour ce moment.
Si vous voulez, j'ai mis les bouchées doubles, pour qu'il n'y ait pas... Souvent, ce qui se passe, on prend un jeune, parce que c'est longtemps passé, sans d'ailleurs...
Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute.
On n'entre pas par une porte de sortie.
Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu, ça?
Je suis un être normal, je l'avais dit.
Non.
Je vais vous raconter une histoire.
Non, moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois, de chagrin. Hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Mais...
François Hollande mixé avec Kaamelott, c'est un montage réalisé par le vidéaste Vinza, que vous pouvez voir bien sûr sur les chaînes sur internet. François Hollande a vécu son accident de la vie, et nous, par son entremise aussi, c'est-à-dire d'avoir été mal aimé pendant 5 ans au point de se sortir tout seul et de ne pas se représenter. Est-ce que Olivier Delacroix, il y aura les yeux dans les yeux à en tirer de ces grands personnages de l'État qui manifestement ont besoin de se livrer, de témoigner puisqu'il sort un bouquin. Est-ce que pour vous, ça vous intéresse d'aller voir en arrière ce qui s'est passé, ou vous dites que finalement quel intérêt qui se justifie, c'est fait.
Tout dépend du personnage. Je dirais que Sarkozy, qui ne me plaisait pas vraiment, enfin en tout cas avec qui j'étais pas spécialement d'accord, m'intéresse. Voilà l'homme. Parce que,
oui, c'est vrai.
Il est très charismatique. Enfin, il a quelque chose. C'est un monstre de. Voilà. En plus, il aime le football comme moi, et je le préfère là où il est qu'avant. Ça c'est clair. autant que le président Macron. Voilà. Il y a un charisme chez ces hommes là.
Que vous avez envie de percer un mystère.
Qui m'intéresserait, ouais. Et alors, pour la petite histoire, le président Hollande, il était question que je fasse quelque chose avec lui, et puis ça s'est pas fait. Donc j'ai pris ça comme un manque d'audace de sa part. J'aurais bien aimé que ça se fasse, il en était question, et puis c'est tombé à l'eau pour un truc un peu plus classique.
Vous n'avez pas parlé de charisme quand vous avez parlé d'Hollande.
Non, parce que voilà.
Sinon, Manuel Valls est un peu partout, hein. Là, il y a moyen. Je vous le dis, si vous voulez.
Je l'ai vu dans le couloir, là, il y a 5 minutes.
Un livre où il dit vouloir faire œuvre civique. Est-ce que, finalement, Hollande raconte aussi, tiens, que dans ce livre, que Obama abandonne son fromage de chèvre au bord de l'assiette. On dirait du Valérie Trierweiler. Est-ce que ce genre de détail dans un livre qui vient d'un chef de l'État qui veut faire œuvre civique, ça apporte quelque chose? Vous, avec votre œil de journaliste, vous dites, tiens, ça veut dire quelque chose si Obama abandonne son fromage sur le bord de l'assiette?
Non. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Il m'intéresse pas, en fait. C'est vrai que voilà, j'ai lu le bouquin fait par mes confrères du Monde.
Oui, Dave et l'homme.
Voilà,
oui.
C'était assez hallucinant.
Un président ne devrait pas dire ça.
Voilà, et c'était assez hallucinant de voir combien il était naïf même. Je pense que la fonction l'a complètement écrasé, parce que maintenant je le vois. Et à nouveau, parce que autant j'étais avec Carl Zero, j'ai croisé François Hollande. Il était très drôle, très fin, très subtil. J'ai voté pour lui, pensant qu'on allait avoir un président très drôle, très fin, très subtil. Voilà.
La pluie, c'était marrant. Quand même.
Ouais.
Et la cravate de travers. Olivier Delacroix avec nous, journaliste, documentariste et aussi musicien, compositeur. Il y a votre album qui s'appelle Amor, qui est sorti au mois de mars. Et, découvrez-le, parce que c'est vrai que quand on est comme vous, journaliste, ou qu'on voit, on est à la télévision régulièrement, etc. En France, on est souvent mis dans des cases. Et puis,
c'est pas facile de percer.
Mais voilà, je vous le signale. C'est l'album Amor d'Olivier Delacroix, parce qu'on va parler musique ensuite avec Djoubaka.
Eh ben ouais, on y va. On prend le bousin qui vole là et puis on va à New York. Mais avant, un peu d'histoire, parce que nous allons causer d'une musique de migrants, celle des Cubains, vers New York justement. Alors pendant les années 50, des milliers de Cubains enjambent la mer, se retrouvent à New York donc. Et ils vont se répartir dans deux quartiers, hein, le Spanish Harlem et une partie du East Harlem. Et en fait, c'est dans ce quartier que va naître un label qui s'appelle Fania et qui va rassembler tous les musiciens du coin. Parce que une des victimes collatérales du blocus de Cuba, c'est la musique. Dans la grosse pomme, en fait, les latinos de toute l'Amérique du Sud importent leur son. Et Fania, le label, va réunir tout le monde et créer une nouvelle sonorité. Un mix de tout ce qui fait bouger le popotin du Spanish Harlem, en fait. C'est un peu comme pour une sauce. Ils réunissent tous les ingrédients. Alors, ils y mettent un peu de Montutos, de Carachas, de Boleros, de Danzón, de Merengue, de Rumba, de Mambo et un soupçon de Bougalou, qui est une musique que j'adore, qui a été créée au milieu des années 60. Et tout ça, ça donne quoi? La salsa. Donc la salsa, elle est née à New York et pas à Cuba. C'est ça l'histoire, c'est la sauce en espagnol, quoi. Et en fait, on est à la fin des années 60, il faut que vous imaginiez que c'est une mode absolument incroyable. Les stars d'alors, comme Celia Cruz, elles n'ont rien à envier aux filles d'Hollywood. Et par exemple, il y a eu un énorme concert en 73 au Yankee Stadium de New York. Il y avait quand même eu 40 000 personnes qui sont venues danser là-bas. Donc ça réunissait vraiment, vraiment, vraiment du monde. Il y a des grands spectacles à Broadway, etc. Mais à cette époque, en fait, chez les Castro Brothers, enfin surtout pour les Cubains, la salsa, donc ça n'existe pas. Elle est même interdite de cité, puisqu'elle a été créée par des gens qui ont décidé de fuir en fait le pouvoir castriste. Et certains militaires vont même aller jusqu'à prétendre que la salsa, c'est une manipulation commerciale de l'impérialisme. Un peu comme Alex Vizorek avec nous. Et quand l'île va s'ouvrir au tourisme, en fait, dans les années 80, tous les touristes demandent de la salsa. Mais la salsa, il n'y en a pas. Donc ils vont créer, en fait, pour les gens, une autre salsa qui va apprendre une autre tournure et une autre forme. Business is business, c'est la migration inverse, en fait. Et en général, les New-Yorkais, ils sont vraiment fiers de cette histoire. Plus qu'à Miami, où il y a d'autres communautés, mais à New York, on vous raconte ça toutes les deux minutes, etc. C'est nous, la salsa, machin et tout. Et ils louent un culte vraiment aux artistes de cette époque. Et ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas entendu un disque qui tape dur, en fait, dans ce rythme-là. Et donc, à Brooklyn, vous avez un label qui s'appelle Daptone. Et Daptone, c'est eux qui ont sorti Sharon Jones, Charles Bradley, qui vont faire du vieux, du très très neuf. Et ils aiment revenir aux origines, en fait, d'un mouvement. Et donc, il y a deux producteurs, en fait, qui sont là-bas. Un type qui s'occupe vraiment des arrangements et quelqu'un qui est le producteur, qui décide,
d'aller à Cuba. Ils vont former un orchestre qu'ils appellent Acocan. C'est un mot yoruba, en fait, qui signifie du fond du cœur. Et puis, ils trouvent là-bas José, attention, c'est génial, Pepito Gomez. C'est un chanteur, en fait, qui a passé quasiment toute sa carrière à Cuba, à jouer dans tous les grands orchestres, en fait, d'hôtel. Et puis, en 2008, il se casse. Il arrive à New York. À New York, il va vivre une deuxième vie, où il va se réinstaller et être confronté à d'autres musiques. Il part avec Pepito. Il l'emmène là-bas.
C'est génial. Avec José Pepito.
Gomez. Avec José Pepito Gomez. Et ils décident, en fait, ensemble, de réunir les vieux musiciens, un peu comme le Buena Vista, mais, et de créer un vrai Big Bang, comme on le faisait dans les années 50-60. Et donc, ils vont se retrouver au studio Arietto. Alors, c'est le studio où a enregistré, c'est le plus vieux studio du monde déjà. Et c'est le studio où vous avez le Buena Vista Social Club qui a enregistré et qui est revenu. Mais c'était surtout le studio du gouvernement cubain où on enregistrait tous les chants patriotiques, militaires, etc. Oui, une inversion comme ça, une géopolitique qui se remet en marche, là. Et donc, ils vont faire un album en 3 jours, quasiment in extenso, comme ça, et on y va, on joue, ça dort pas, ça joue. Et il faut vraiment jeter une oreille sur ce disque, parce que ça faisait vraiment longtemps, en fait, que j'avais pas eu un disque cubain de cette qualité-là. Et alors, je vous ai choisi un petit morceau, parce que ça va vous donner un peu l'état d'esprit de ces 3 jours. Le morceau s'appelle Mambo Rapidito, et c'est Orquesta Acocan.
Aprovecha, mami, que llegó el mambo. Ven y bailalo ahora. Ven y baila lo sabroso, ven y baila un poquito. Baila mi mambo que
esto se acaba ya,
se acaba.
El mambo
se acaba,
esto se acaba ya,
se acaba, baby.
El mambo se acaba.
Mueve la cintura pa' que goce tu manera, que este mambo que te traigo se ha gozado donde quiera. Baila mi mambo que
esto se acaba ya.
Y te alegra bien la vida. Baila mi mambo que
esto se acaba ya.
Se acaba.
El mambo se acaba.
Se acaba.
Esto se acaba ya.
Se acaba,
el mambo,
baby.
Se acaba.
Te lo dije, nena.
Esto se acaba ya.
Ven y baila el mambo.
Se acaba.
Ven y goza el mambo.
Esto se acaba ya. El mambo se acaba.
Mambo Rapidito, c'est le mambo le plus rapide du monde actuellement.
Ah ouais, franchement.
De Orchestra Acocan, A-K-O-K-A-N.
K-A-N. Merci, Djoubaka.
Et Pepito qui chante, hein.
Ouais, on a entendu, bien ouais, sûr.
Soyez pas raciste comme ça, Djoubaka. Il a un nom, cet homme-là.
José Gomez Pepito.
Sur France Inter, nous sommes en compagnie d'Olivier Delacroix. C'est le Olivier de Dans les yeux d'Olivier, vous savez, sur France 2.
C'est le gars de la télé.
Ouais. Et mercredi 25 avril à 22h30, il y aura un nouvel épisode de cette série Dans les yeux d'Olivier qui s'intitule Rescapé, le retour à la vie et qu'on vous conseille chaleureusement pour quatre parcours de vie hors du commun. Et Olivier, à cette heure-ci, Guillaume Meurice fait ce qu'on appelle du comique d'investigation.
D'accord.
Comme vous et moi, il refuse la carte de presse et il a bien raison.
Oui, écoutez, j'ai passé une soirée délicieuse hier à l'Assemblée nationale à l'occasion d'une exposition formidable, sur mai 68. Ça vous plaît, hein, les gauchistes, regardez les gauchistes. Hein, regardez l'invité, regardez le hippie, il est content, le rasta blanc. Hein, alors, il frétille de la dreadlock. Je ne vous juge pas, j'adore le djembé. Et hier aussi, j'ai adoré mai 68 à l'Assemblée, fallait oser, chez François de Rugy, hein, qui, je le rappelle, est quand même le quatrième personnage de l'État, après Emmanuel Macron, bien sûr, la poule de l'Élysée et le ténia de Bruno Roger Petit. Donc, il y avait un vent d'insurrection hier soir et moi j'y suis allé. J'adore l'insurrection. Alors évidemment, comme je sais que je participe à une émission de punk, hein, de punk à chien, je pense notamment à monsieur Aka, hein, Joub, de son prénom, j'ai posé les questions. Vous aimez bien les bonnes shows, hein, je sais, vous aimez bien les questions qui dérangent. Est-ce que commémorer l'insurrection sous les ordres de la République n'est pas un peu paradoxal? Qu'en pense cette participante?
Mais ça colle parfaitement. Mai 68, c'était pas triste. On faisait la fête, ben on continue.
Ah, voilà. Il y a peut-être moins de champagne et le petit four.
Écoutez, mai 68 était quand même pas une révolution vraiment très populaire. C'était des jeunes bourgeois qui devaient boire aussi du champagne et manger également des petits fours. Bon.
Oui, après, il y a eu les ouvriers quand même.
Ah, j'oublie toujours les ouvriers.
C'est tout comme moi, j'oublie. L'autre jour, il y en avait chez moi des ouvriers qui réparaient les water. Je les ai oubliés, je les ai enfermés en allant promener Pujadas. C'est le nom de mon petit caniche nain. Oh le con, j'oublie toujours les ouvriers, c'est mon côté socialiste. Mais bon, les gens qui étaient là hier, ils étaient plus intéressants que des ouvriers. Il y avait des collaborateurs, des parlementaires de La République En Marche. Alors celui-là, ça le choque, mai 68 à l'Assemblée.
Bon non, déjà, le Palais Bourbon a déjà été le siège de la Chambre sous les périodes révolutionnaires. Donc non, apparemment...
C'est toujours un lieu révolutionnaire.
Ah oui, surtout depuis que le président de la République a été élu, avec son célèbre libre programme Révolution. C'est à nous qu'il appartient de la mettre en œuvre.
Que j'avais oublié, mais c'est vrai, mais lui, il a sorti Révolution. Moi, ça m'avait fait peur à l'époque, d'ailleurs. Je me suis dit, Seigneur Jésus-Christ, of Castaner, il est devenu fou allié, Manu. Mais après, évidemment, j'ai ouvert le livre, j'ai tout de suite reconnu le style de Jacques Attali. Hein, j'adore Jacques Attali, j'adore, je l'appelle Attila. Là où il passe, la gauche ne repasse pas. J'adore l'humour. Oh, il faut rire parce qu'en ce moment, c'est un peu tendu. Hein. Il y a les mouvements sociaux en France, mais lui, il n'a pas peur. Hein.
Je ne vois pas tellement l'intérêt, enfin pas l'intérêt, mais les passions communes entre les étudiants et les adultes.
Et les cheminots aussi.
Il y a un mouvement de contestation, c'est vrai. Enfin bon, plusieurs mouvements de contestation ne font pas une révolution.
Et si jamais ça arrivait? S'ils se regroupaient?
Nous verrons bien. Il y a un couloir au troisième sous-sol dans l'Assemblée, on pourra toujours s'y réfugier.
Là, vous venez de donner pile l'endroit où vous allez être caché, donc c'est pas trop mal. Mais qu'il est bête celui-là! Si Philippe Martinez, il lance l'offensive au rasoir à moustache, on est mal, le nulos. Bon, alors, heureusement, en termes de guérilla, j'ai croisé hier des gens plus expérimentés, notamment l'ami Jean-Louis Debré. On l'aime bien, Jean-Louis, on l'adore, l'ancien président de l'Assemblée, Jean-Louis. Un fieffé insurgé, un rebelle, le fils du ministre du général de Gaulle, l'ancien ministre de l'Intérieur lui-même, j'ai été le voir.
J'ai vu une affiche CRS égale SS, alors est-ce que vous êtes correct, ça?
Non, c'est pas correct.
Ça, par exemple.
Moi, ce qui me frappe beaucoup dans mai 68, vu que c'est très jeune...
Ah, ce qui frappe beaucoup aujourd'hui, c'est les CRS.
Ça, je peux pas vous laisser dire ça.
Important, c'est la vérité.
Non, c'est pas la vérité, c'est votre vérité.
Ah non, c'est pas la mienne, non, c'est celle des services d'urgence partout en France. Mais bon, Jean-Louis, il s'en fout, c'est un dur, hein, c'est lui qui a été délogé. Les Noirs, vous vous rappelez, à l'époque à Saint-Bernard, à coup de CRS, c'est un costaud, Jean-Louis. Il fait de l'acupuncture avec des javelots, il se perce les points noirs avec une batte de baseball. J'adore Jean-Louis. Pourquoi sa visite à cette formidable expo?
Origine, il faut jamais cacher le passé.
Est-ce que c'est pour enterrer définitivement mai 68 ou est-ce que c'est pour lui rendre hommage?
Mais vous êtes extraordinaire, c'est pour prendre conscience de notre histoire. Vous êtes extraordinaire. Notre histoire, elle est faite de ces événements. Et il n'y a que les pays qui sont les pays totalitaires qui cachent leur passé.
Oui, il n'y a que les pays totalitaires qui cachent leur passé. Les vraies démocraties, elles cachent leur présent. Elles vont à Notre-Dame-des-Landes et elles filment pour refiler les images directement à la presse. C'est moderne, j'adore. Même de la housse, il est dépassé. Il va postuler à l'UMA comme une vulgaire journalope. Alors j'en étais j'en étais là à roter mon basiac millésimé, quand soudain, qui vois-je? Mais oui, il est là! Il était là, le roi de cette jungle, François de Rugy. Oh. Ah, il s'appelle Rugy, comme un lion, j'adore. Le leader de l'Assemblée révolutionnaire. Alors évidemment, je suis allé le saluer.
J'ai vu élection piège à con. Alors, qu'est-ce qu'en pense le président de l'Assemblée nationale?
Le paradoxe, si on regarde en face la réalité, c'est l'intérêt d'un travail historique, on voit que mai 68, c'était un mouvement de soulèvement de la jeunesse qui commence à être justement beaucoup plus ouvert et qui est beaucoup plus rétive à l'autorité.
Par exemple, aujourd'hui, les jeunes sont trop mous. C'est ça que vous dites?
Non, mais on n'est plus dans une société demandée à Cohn-Bendit, il vous dirait, mais les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui de ce qu'était la société française avant 68.
Mais demandez à Cohn! Oui, bien sûr, j'adore celui-là aussi, Cocon, je l'appelle. Demandez-lui! Si vous ne savez pas où le trouver, appelez directement le bureau de Macron. Normalement, il est en dessous. Donc, vous avez compris, les jeunes étudiants de Tolbiac et d'ailleurs les zadistes, les ouvriers de Ford, à Blanquefort, de Carrefour, les personnels de justice, des hôpitaux, les cheminots, j'en passe et des bien pires, vous n'avez que de la gueule de vous fédérer pour faire un mai 2018. Hein, vous avez des petites merguez dans le slip. Allez, je vous laisse par un week-end sous les pavés à la plage de Deauville. Bisous les gauchias.
Merci Guillaume Meurice.
Je vous en prie.
Olivier
je vous ai ramené des petits fous.
Olivier Delacroix est avec nous jusqu'à 18h et nous allons parler de ces juges, de ces avocats, ces greffiers qui sont dans la rue. C'est l'équivalent d'un jour férié pour Claude Guéant et Nicolas Sarkozy. Les fonctionnaires de justice dénoncent la réforme préparée par la garde des Sceaux qui prévoit notamment la suppression des tribunaux d'instance, il n'y aura plus que les grandes instances, donc les tribunaux de proximité qui seront supprimés. Donc l'accès du citoyen au recours en justice sera rendu plus difficile ou rendu prétendument plus facile grâce à la magie des internets. Hein, ça c'est l'humain, c'est beau. Vous voulez un aperçu de l'ubérisation de la justice? Je vous le donne.
Mon client n'est pas un mauvais gars, mais il aime tuer. Alors d'où lui vient ce hobby? Penchons-nous sur son passé, que voyons-nous? Nous voyons un métier. Qui a dit que mon client était un crétin, un analphabète, un alcoolique, un syphilitique? Mais pas du tout! Mon client est un militaire! Et de carrière! Et son métier, c'est la mort! Et la mort, elle est obligatoire! Alors est-ce une bonne chose? La question n'est pas là. Toujours est-il que sans la mort, la vie serait longue.
Albert Dupontel. Voici ce que reprochent les fonctionnaires de la justice à cette réforme du gouvernement. C'est notamment la justice manque de moyens. Et plutôt que donner des moyens et du personnel, le gouvernement est en train de faire, disent-ils, un entonnoir, de réduire l'accès aux juges, de réduire l'accès aux droits. Et autre exemple, une pension alimentaire pourrait être fixée ou révisée par un organisme comme la CAF, et cette fois sans passer par le juge. Olivier Delacroix, touché à l'accès aux droits quand le citoyen vit une injustice, et vous en avez croisé pas mal, des gens qui vivent des injustices, c'est une forme de, plus que de négligence, de violence, ça touche à quelque chose de très sensible, une corde sensible en vous,
ouais,
aussi, j'imagine.
Je crains tout ça en ce moment. En plus, j'ai un frère qui François,
avocat.
Donc Delacroix, qui est... qui est avocat à Évreux, donc je suis bien au courant. Et je vois comment ces avocats bossent aujourd'hui, comment ils sont chargés. Parce que l'image qu'on avait, j'ai 53 ans, moi je me rappelle à 16 ans, l'avocat c'était quand même quelqu'un qui était riche, qui avait réussi. Aujourd'hui,
il y avait une noblesse du métier,
comme les médecins. Vous voyez, aujourd'hui, ces métiers-là, il y a beaucoup de gens qui rament, beaucoup de gens qui gagnent pas leur vie, qui ont du mal à joindre les deux bouts. Voilà, c'est comme ça, cette réforme, on part peut-être d'un bon sentiment. Je suis pas sûr que les gens vont être gagnants dans tout ça. Je pense que les avocats aujourd'hui sont un intermédiaire vraiment vital, mais pour eux. Et je pense pas que les gens l'ont compris, ça. On voit souvent l'avocat comme celui qui va se faire un peu de thune rapidement pour faire payer le divorce et tout. Or, je pense que l'avocat, il est nécessaire. J'aurais aimé être avocat d'ailleurs.
Ah
j'étais trop feignant.
Ah oui, un maillon de notre tissu social et un recours pour des gens qui sont confrontés à des injustices parfois terribles ou parfois une pension alimentaire, c'est devenu parfois d'une banalité confondante.
Ouais.
Et si c'est pas un juge qui s'en occupe, la CAF, c'est ça va pas dans le sens.
Vous avez vu comment ça marche la CAF? Déjà, ça a du mal.
Ça marche pas. Astérix, la maison des fous, et vous avez un aperçu.
Voilà. Donc je pense qu'on peut se déclarer solidaire de cette journée justice morte.
Ça va pas ramener le calme dans les foyers français, ça en tout cas, je vous le dis.
Plus sérieusement, il y a une thématique qui est derrière, très vite fait, c'est la question du rapport aux régions, parce qu'ils font le parallèle entre les déserts médicaux et les déserts judiciaires. Et il y a un truc où vraiment les régions sont en train d'être désertées par plein de services publics, et c'est les métropoles qui absorbent toute l'activité. Enfin,
moi, y compris ces tribunaux. Débat, mais... Non, vous avez tout à fait raison, Pablo. Allez, et justement, salut. Tenez, comme il est 17h48 sur France Inter, ouais. Avec Olivier Delacroix parmi nous, l'heure va passer à la parole à notre éditorialiste et professeur de démagogie à l'université Enrico Macias de Levallois-Perret. C'est vous, Pablo Mira. Pablo, vous êtes très beau et vous allez nous parler du blocage des universités françaises.
Oui, de vérité, en une phrase. Charline, depuis plusieurs jours déjà, donc les facs sont bloqués par des jeunes contestataires. Et vous savez, dans contestataires, il y a Con, qui représente bien les étudiants. Il y a Test, qui représente bien ce qu'est cette crise pour le gouvernement. Mais dans contestataires, il y a surtout à terre, ce qui représente bien comment la police va régler le problème. Et ce recours à la violence, Benoît Hamon s'est exprimé dessus ce matin sur France Inter au micro de Léa Salamé. On l'écoute.
La réponse, ça peut pas être la matraque et que la matraque.
Ah, ouais, la réponse au blocage ne peut pas être la matraque et que la matraque. Entièrement d'accord avec Benoît Hamon, il faut la matraque et le flashball. Et il devient donc urgent d'intervenir car la situation est dramatique. Charline, plus personne ne va en cours, ça chante, ça fume, ça joue du jumbé, c'est l'anarchie. Bref, toutes ces facs de droit ressemblent désormais à des facs d'art plastique. Intolérable. Sans parler de la violence insoutenable des bloqueurs envers les forces de l'ordre. D'ailleurs, la ligne rouge a été franchie puisqu'à Nanterre, des étudiants ont attaqué des policiers en leur mettant des coups de mâchoire dans leur matraque. Intolérable. x2. Alors, comment en est-on arrivé à ce chaos? Eh bien, tout est parti du système Parcoursup, qui permet aux étudiants de formuler des vœux d'orientation et de faire état pour chaque vœu de leur motivation. Exemple, je veux aller en fac de droit car je suis passionné par les questions de justice, ou alors voilà, je veux aller en fac de psycho parce que j'ai besoin de prendre une année sabbatique. Car ce système Parcoursup, à la base, ça a été créé pour permettre une meilleure orientation des étudiants vers les bonnes filières. Autre exemple, voilà, Guillaume aime la politique, donc je l'oriente en fac de sciences politiques pour qu'il puisse affûter ses opinions. Alex, lui, préfère la drague lourde, donc je l'oriente en fac de droit pour qu'il connaisse le code pénal.
Et moi alors, Pablo, vous m'orientez vers quelle filière alors?
Oh, pas de filière, Charline, juste un cabinet d'orthophoniste. Donc les...
C'est bas.
Donc les bloqueurs, Charline, ne sont pas contents parce que selon eux, ça va créer de facto une sélection à l'entrée. Et alors, je veux dire, entre un élève qui a 18 de moyenne et un autre qui a seulement 11 de moyenne, eh bien, je suis désolé, mais moi, je prends celui qui a le plus de chances de trouver un emploi, c'est-à-dire l'élève qui n'a pas un nom arabe. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut interdire l'entrée à la fac à tous ceux qui n'ont pas le niveau intellectuel. Non, que ce soit bien clair, les CRS sont les bienvenus. Alors, mais il faut se rendre à l'évidence, Guillaume, il n'y a pas assez de place dans les facs par rapport au nombre de candidats. Donc il est urgent d'orienter les élèves vers des voies différentes. Par exemple, vers le monde de l'apprentissage pour devenir serrurier, ou encore vers le monde de l'arnaque pour devenir serrurier. Allez, vous le savez, cette émission, c'est vous qui avez la parole, les auditeurs et les auditrices. Donc on va prendre un Mirano au téléphone, Benjamin qui est avec nous. Salut Benjamin.
Salut Pablo.
Alors, je te préviens tout de suite, Benjamin, je veux des arguments aujourd'hui. Hein. Je veux pas que tu me dises l'air du temps, là. Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi sur le fait qu'il faut évacuer ces zadistes des facs et instaurer une sélection à l'entrée de l'université?
Alors déjà, Pablo, je vais te répondre sur le point de la sélection.
Ouais.
Il existe de fait déjà une sélection à l'université. Ça s'appelle le baccalauréat.
Mm-hmm.
Donc s'il y a un problème parce que trop de monde va à l'université, eh bien commençons déjà par réformer le bac.
Ouais, non, là, on comprend absolument rien à ce que tu es en train de dire, Benjamin. Tu sais qu'on va plutôt prendre Romain au téléphone. Salut Romain.
Ouais, Pablo, il y en a marre de la France, c'est la chienlit permanente.
Ah bah voilà. Merci Romain pour ton point de vue éclairé. Tu repars avec un t-shirt avec mon visage dessus, ainsi qu'une boîte de pruneaux et une lotion anti-gris capable de repousser Guillaume Meurice. Pour conclure, finalement, au-delà des polémiques sur les violences policières, sur la politisation des bloqueurs de fac, la seule question que tout le monde devrait se poser, c'est: faut-il que la fac soit accessible à tous? Et la réponse, elle est simple. Bien sûr que non, car n'oublions jamais que l'égalité des chances, eh bien, c'est discriminer la discrimination. Allez, Salut.
Merci Pablo Mira, éditorialiste à Vanneurs Actuels, que vous pouvez voir aussi au Sentier des Halles, n'est-ce pas?
C'est toujours dimanche 20h, tous les dimanches.
Dimanche 20h.
Venez, c'est payant.
Voilà, il dit des choses contre de l'argent. Ouais. Pablo Mira, merci. C'est avec Olivier Delacroix que nous passons ce moment de Par Jupiter. Vous pouvez voir ce documentaire tous les 15 jours, jusqu'en juin, c'est
Alors,
ça?
Si je peux me permettre, il faut un petit peu suivre en ce moment, parce que parce qu'avec les mouvements sociaux, il y a eu aussi des grèves sur France. Évidemment. Donc il y a un peu des décalages, des programmations, reprogrammations.
Soyez vigilants, mais on aura droit, j'espère, à plusieurs numéros d'ici le mois de juin.
Oui, il y en a encore 6.
Et notez bien,
six.
Celui...
Six.
Ah ben voilà.
Notez que chaque fois Delphine Ernotte le regarde l'après-midi, et si elle n'aime pas, elle ne le diffuse pas le soir.
Oui, ça aussi.
On peut l'annuler pendant.
Oui.
Mais on vous conseille celui du mercredi 25 avril à 22h30, en tout cas, dans les yeux d'Olivier. Ce dernier sujet avec vous, c'est l'espace de cerveau disponible qui a été très très bien rembourré par la télé-réalité depuis 15 ans. Son langage, ses comportements, sa conception de l'intimité ont infusé sur une partie de la jeunesse. C'est-à-dire que ces programmes instrumentalisent cette jeunesse, car elle modifie la morale, la société. Et pour quel résultat? Celui-là.
T'aimes bien Paris Hilton, on dirait? C'est mon modèle. Elle a tout compris. T'imagines la fille? Elle avait tout. Des parents riches, des maisons, des hôtels, des piscines, des parkings. Elle est gaulée de la mort. Ça lui a pas suffi. Elle a décidé de créer son propre destin. Elle ose le rêve, comme moi. Pour devenir Miss Bouzol, j'ai bossé dur. J'ai même dû rouler une pelle au fils du maire. Stéphanie, je peux te filmer? Ah ouais, bien sûr. Pas de gros plan, parce que je suis pas assez maquillée. Et puis Salma, tu peux m'appeler Aïsti. Comme la boisson? Non, Aïsti. Stéphanie Tuche.
Oui, c'est Star Astern dans Les Tuches, le film d'Olivier Barou. Et c'est un article très intéressant à lire sur slate.fr. Olivier Delacroix, vous avez une ado à la maison, si je ne me trompe.
Oui, hein. Oui.
C'est une question qui vous concerne au premier chef. En plus, vous avez travaillé à la télévision. Derrière ces programmes, il y a des gens, les Ch'tis à Marseille, etc. Il y a des gens qui les conçoivent, ces programmes, qui se font du blé là-dessus. Si vous les aviez les yeux dans les yeux, vous avez envie de leur dire quoi? Ça vous inspire quoi, ça?
Le bourre-pif est autorisé.
Je passe.
Le coup de boule est autorisé.
Je ne suis pas concerné. Ouais. J'ai une fille qui s'intéresse absolument pas à tous ces programmes-là. Donc,
comment vous avez réussi alors cette
J'ai pas réussi. Elle s'intéresse pas du tout à ça. Parce que vous savez, je pense que vous choisissez pas vraiment ça intéresse ou pas. Mais non, j'ai de la chance. Elle s'y intéresse pas du tout. Après, qu'est-ce que j'aurais à leur dire? Je sais pas trop. Vous savez, l'autre jour, j'étais en train de tourner et puis il y avait dans un centre commercial, il y avait une queue énorme. Il y avait 3500 personnes et j'ai fini par demander pourquoi. En fait, c'était deux gars des Marseillais là qui venaient. Oui. Donc et il n'y avait pas que des enfants. Non, là. C'était inquiétant.
Vous dites j'ai de la chance, ma fille s'intéresse pas à ça. Vous y êtes sans doute aussi pour quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a l'éducation, il y a la façon dont.
Sans doute. Je pense que ses centres d'intérêt se portent sur autre chose dans ses choix, parce que je lui interdis pas le téléphone, les réseaux sociaux. Je trouve qu'elle a des choix assez avertis, donc je suis assez fier de ça. Mais c'est l'éducation simplement. Je pense qu'elle s'est fait elle-même ses choix.
Après, on a tous aimé des conneries quand on était gamin. Enfin, moi, j'allais voir des matchs de foot. Je sais pas si c'est particulièrement plus brillant que.
On aime bien le football.
Oui, ouais,
on aime bien,
mais je vois pas pourquoi ça s'est influé sur
des valeurs que ça.
Sur la langage, la moralité, etc. Il y a quand même un pas. Bah, oui, moi, je vous coupe la chic, c'est comme ça.
Ce qui se passait dans les tribunes au niveau de la moralité.
Ça n'a pas changé, par contre.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité, un rôle qu'il découvre, et je pense que vous allez pas être trop déçu du rôle qu'on vous a octroyé. On se rend... vous cherchez des lunettes, peut-être.
Ouais, exactement.
si vous voulez prendre le temps de les trouver, ça me laisse le temps de pitcher. Nous sommes...
De résumer, même.
De résumer,
on avait Jacques Toubon ce matin sur l'antenne, je le rappelle.
De donner l'envie aux gens. Les lunettes sont là. Nous rendons aux alcooliques anonymes, car il y a un nouveau membre qui souhaite, évidemment, soigner ses problèmes.
Oh, un petit nouveau. Bonjour, je m'appelle Jean-Vincent.
Bonjour Jean-Vincent.
Jean-Vincent Placé.
Ah, connais pas.
Vous ne savez pas qui je suis?
Non.
Mais si, un grand homme politique.
Ah, Jean-Vincent, vous avez encore bu là.
Oui. Enfin, souvenez-vous, j'ai bossé pour les verres.
Apparemment, davantage pour la bouteille que pour les verres, vous avez bossé.
Je suis là pour arrêter de boire.
Ah ben, ça va être compliqué.
Mais vous avez commencé à quel âge?
À réclamer un ministère?
Non, à boire du saké.
Non, mais c'est raciste, ça.
Vous êtes mal placé pour faire la remarque, là.
Mais j'avais bu.
Oui, bah quand on est raciste sous, ça veut dire que même à jeun, on l'est un peu, quand même.
Oh merde, et pour la connerie, c'est pareil?
Bah c'est pareil, pareil.
Oh merde. Merde.
Je vois qu'en 2015, vous en teniez déjà une bonne, hein.
Impossible, j'ai sorti un beau livre, vendu à 36 exemplaires.
Oui, mais rien que le titre témoignait quand même d'un état d'ébriété avancé, non?
Pardon? Le titre, c'était « Pourquoi pas moi ?»
Ah, c'est vrai qu'on avait bien rigolé.
Ah ouais, oui.
Vous ne savez pas à qui vous parlez. Je vous rappelle que j'ai été ministre.
Secrétaire d'État. Vous avez
dit. Oui, et puis celui qui vous a nommé était sans doute bourré aussi.
Soyez gentil, c'est pas facile pour moi de venir aux alcooliques anonymes. Hein.
Ah, c'est sûr que c'est pas facile le côté alcoolique.
Moi, c'est plutôt le côté anonyme qui me gêne.
Oui, en fait, vous n'êtes pas très doué en humilité, hein, ça.
À peu près autant qu'en écologie, quoi.
Ah non, en tant qu'écologiste, je sais combien l'eau est un bien précieux.
Pourquoi vous en buvez pas trop?
S'il vous plaît, aidez-moi, je veux vraiment m'en sortir.
Et si vous arrêtiez la politique, par exemple?
Impossible, la France ne s'en remettrait pas.
Ah, vous avez raison, c'est toute la population qui se remettra à boire. Hein.
Oui, de désespoir.
Non, pour fêter votre départ.
Et on a rhabillé Jean Vince pour l'été. Oui. Bah, on l'a bien fait tout seul aussi.
Il s'est déshabillé tout seul.
Oui, bien sûr. Merci Olivier Delacroix.
Merci à vous.
D'avoir passé ce moment avec nous. Donc je rappelle que dans votre série documentaire Dans les yeux d'Olivier, et il y a un très bel épisode qui s'appelle Le Rescapé, le retour à la vie, qui sera diffusé sur France 2. Ce sera le mercredi 25 avril à 22h30. Et puis il y a donc 6 numéros prévus.
Avec celui-là, ouais. Jusqu'à la Coupe du Monde, pratiquement.
Jusqu'au mois de juin. Mm-hmm. Et vous mettez tellement bien l'humain dans le documentaire et la télévision qu'on se dit, allez, on va l'inviter, on est fou. C'est pas nouveau monde, hein, mettre l'humain au centre. Donc c'est un peu disruptif en ce moment. Merci Olivier Delacroix. On va se retrouver demain avec Salvatore et Adamo. Voici le mot de la fin. Au retour médiatique de François Hollande.
On n'entre pas par une porte de sortie.